Bonjour à toutes et à tous. Lundi 11, la Maison-Blanche a surpris en décrétant une intervention fédérale pour la sécurité publique à Washington, D.C. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler le contexte immédiat de cette décision et les arguments avancés par l'exécutif?
Avec plaisir. L'administration a invoqué l'article 740 de la loi sur l'autonomie municipale, mobilisant environ 800 soldats de la garde nationale qui ont pris le contrôle de la police métropolitaine. L'argument central repose sur une prétendue explosion de la criminalité, le décret qualifiant la capitale de cauchemar de meurtre et de crime, et la plaçant parmi les villes les plus dangereuses au monde.
Ce langage est particulièrement alarmiste. Comment la Maison-Blanche justifie-t-elle l'urgence de cette intervention alors que d'autres mesures similaires ont récemment été prises, notamment en Californie?
En effet, le discours officiel met en avant la nécessité d'endiguer une vague de violence dans une logique de fermeté, voire d'état d'urgence. Il s'agit aussi d'adresser un signal politique fort en ciblant des juridictions à tendance démocrate présentées comme incapables de garantir la sécurité et ainsi de légitimer une mainmise fédérale exceptionnelle sur le maintien de l'ordre local.
Transitionnons justement vers la réalité chiffrée. Les affirmations de la Maison-Blanche semblent en contradiction avec les données officielles. Pouvez-vous nous éclairer sur la tendance actuelle de la criminalité à Washington?
Absolument. Les chiffres récents montrent une décrue marquée. La criminalité violente a chuté de plus de 25% au premier semestre 2025 par rapport à 2024. Les homicides, quant à eux, ont diminué de 32% entre 2023 et 2024, et la tendance est encore à la baisse en 2025, avec un recul supplémentaire de 11%. On est loin de l'image d'une capitale hors de contrôle.
C'est frappant, surtout qu'on entend souvent que Washington serait la ville la plus dangereuse d'Amérique. Comment expliquer ce décalage entre perception, rhétorique politique et réalité?
Ce phénomène de distorsion est ancien. Les indicateurs de criminalité servent fréquemment d'outils politiques, notamment pour durcir le ton ou mobiliser des électeurs inquiets. Mais en réalité, Washington se situe bien en deçà des villes américaines les plus meurtrières, comme Saint-Louis ou Memphis, et bien loin derrière les villes les plus violentes du monde. La perception amplifiée par des discours dramatiques et la médiatisation de certains faits divers ne reflètent pas la situation réelle.
Cela soulève donc la question de l'utilisation stratégique de la peur. Peut-on y voir une forme de théâtre politique, comme on l'a observé dans d'autres contextes internationaux?
Effectivement, à l'instar du Salvador sous Bukele, on assiste à une mise en scène de la sécurité où la démonstration de force prime sur la pertinence des réponses. La peur devient un levier politique, bien que les données objectives démentent l'urgence brandie par le pouvoir.
Entrons plus en détail dans la comparaison internationale. Souvent, Washington est citée comme l'une des villes les plus dangereuses, mais qu'en est-il vraiment face aux métropoles mondiales?
Si l'on regarde les classements de 2024, la réalité est sans appel. Durán, en Équateur, affiche 146 homicides pour 100 000 habitants, suivi de Nelson Mandela Bay, en Afrique du Sud, avec 102, tandis que Washington ne compte que 26 homicides pour 100 000, soit 8 fois moins que les pires cas mondiaux. Parmi les 50 villes les plus violentes, seules 3 sont américaines et aucune n'est Washington.
Quel facteur explique cette concentration de la violence en Amérique latine et dans une partie de l'Afrique plutôt qu'aux États-Unis?
La plupart de ces villes subissent l'emprise des cartels de la drogue, des guerres de territoire et une impunité institutionnelle. L'exemple de l'Équateur illustre comment un pays peut basculer en plaque tournante du trafic, entraînant une flambée des homicides. Au Mexique ou au Brésil, la fragmentation des groupes criminels et la faiblesse des institutions aggravent la situation, contrairement à la capitale américaine où la criminalité est plus contenue.
Peut-on alors dire que la focalisation sur Washington détourne l'attention des vrais foyers de violence mondiale?
Tout à fait. Cette focalisation relève davantage d'un enjeu national que d'un constat criminologique. Les données internationales montrent une géographie de la violence centrée ailleurs, et la stigmatisation de Washington relève davantage du discours politique que de l'analyse objective.
À la lumière de ces éléments, évaluons l'efficacité des interventions militarisées comme celles décrétées à Washington. Que nous enseignent les expériences passées aux États-Unis et à l'étranger?
Les réponses militarisées ont un impact ambigu. Au Salvador, la stratégie de Bukele a permis une chute spectaculaire du taux d'homicide, mais au prix de violations des droits et d'un avenir incertain sur le plan institutionnel. Ailleurs, comme au Brésil ou en Colombie, la militarisation a parfois coïncidé avec des pics d'homicides, à mesure que les groupes criminels se fragmentaient et que la violence se déplaçait.
Les statistiques américaines vont-elles dans le même sens? Un déploiement militaire améliore-t-il la sécurité durablement?
Aux États-Unis, les études montrent que l'effet est souvent superficiel. Une présence accrue dans les rues peut rassurer à court terme, mais n'affecte que peu la criminalité chronique. Les progrès de Washington, par exemple, sont davantage attribués à une police ciblée et à une coordination judiciaire qu'à des opérations militaires.
Quelles alternatives plus efficaces et moins spectaculaires existent pour lutter contre la criminalité urbaine?
Les approches fondées sur le renseignement, l'investissement dans les institutions locales et la coopération avec les communautés produisent des résultats plus durables. À titre d'exemple, à New York ou à Boston, le ciblage de quelques centaines de délinquants chroniques, couplé à la prévention sociale, a permis de réduire significativement les taux d'homicide sans recours massif à la force. Il s'agit donc d'un travail de fond, moins visible, mais bien plus efficace à long terme.